Et notre invité ce matin dans le 8-30, Kevin Parra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Fédération Les Républicains dans les Hautes-Alpes, mais le plus important, c'est cette candidature, Les Républicains pour les législatives, sur la première circonscription des Hautes-Alpes. Avec vous, j'aimerais d'abord revenir sur les présidentielles. Valérie Pécresse qui réalise 5% des suffrages au premier tour des présidentielles dans les Hautes-Alpes, je le précise. Ça vous dit quoi de la droite et surtout de la droite départementale ?
Oh, j'étais quasiment sûr que vous alliez me poser la question, c'est normal, mais vous savez, vous l'avez très bien dit. Et je ne veux pas éluder la question en vous disant ça, parce que bien évidemment que c'est un résultat qui n'est absolument pas à la hauteur de ce que l'on attendait. Donc il y a eu certainement des erreurs qui ont été faites. Et justement, je pense que l'occasion des élections législatives, qui sont des élections complètement différentes quand même, même si elles suivent les présidentielles, sont l'occasion de remettre un petit peu les choses à plat, de mettre les idées sur la table. Parce que je pense que, malheureusement, et ça vaut pour tous les partis, pour tous les courants politiques, pendant ces élections présidentielles-là, on n'a pas assez entendu de débats d'idées. On a surtout entendu des débats de forme et de personnes, et c'est dommage.
Vous dites qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises, les législatives vont être là pour les réparer, de quelles erreurs on parle de...
Bien évidemment, je pense que, vous savez, et notamment dans notre département, dans notre territoire, je pense que les législatives vont être l'occasion de corriger un certain nombre de choses et surtout, vraiment, pour le coup, de parler de projets, de sujets que l'on veut défendre. Et il y en a beaucoup dans notre territoire. Et je pense que cette élection-là va être l'occasion de parler du terrain, de parler des réelles problématiques, en tout cas c'est ce que je veux faire, des problématiques de notre territoire pour les remonter à l'Assemblée nationale et non pas que ce soit toujours les visions parisiennes qui viennent s'imposer à nous.
Alors parlons des chiffres, ce sont ceux de l'INSEE, ils concernent directement la circonscription, la première circonscription des Hautes-Alpes. 14% de la population de cette circonscription a un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté, hein, qui est fixé à 1102 euros par l'INSEE. Ce sont surtout des jeunes de moins de 30 ans. On a raté quoi ?
Je ne sais pas si on... Certainement qu'on a dû rater beaucoup de choses pour en arriver là. Et justement, vous savez, moi je m'engage par passion d'engagement, par passion pour mon territoire. Et je le dis en toute franchise parce que je ne viens pas du chemin classique de la politique. Je n'ai pas de mandat d'élu en tant que tel, et pourtant, ça fait déjà un certain nombre d'années que je m'intéresse au sujet, et surtout que nous sommes engagés, au sens large du terme, dans l'économie locale, dans le tissu associatif local, et je pense que c'est une bonne manière de faire de la politique autrement. C'est-à-dire, moins de politique politicienne, plus de propositions basées sur des problématiques. Vous savez, ça fait 6 mois que je suis en campagne. Mmh. Pendant ces 6 mois-là, pour moi, c'était important parce que j'estime qu'une législative, ça ne se prépare pas en 3 semaines. J'ai essayé de faire le tour, parce que je ne suis pas expert dans tous les domaines, loin de là. J'ai essayé de faire le tour de tout le monde, du tissu associatif, du tissu social, du tissu économique, pour essayer de m'imprégner au maximum et de construire des propositions concrètes. Non pas basées sur la couleur politique, parce que les problématiques de notre territoire, elles sont transpartisanes,
on les connaît. Et bien justement, alors ce sont quoi vos propositions pour ces personnes qui sont sous le seuil de pauvreté ?
Vous parlez des jeunes.
Ouais, surtout les jeunes de moins de 30 ans.
Oui, qui sont visés. Oui. Et première chose pour parler des jeunes, vous savez que moi j'ai moins de 30 ans puisque j'ai 29 ans. J'aurai 30 ans au mois de septembre. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit faire beaucoup plus pour les jeunes à deux niveaux. Un, la formation, et pas forcément la formation, je dirais, des études classiques. Il faut mettre le paquet sur l'alternance, sur le professionnel, en faire des voies d'excellence, comme c'est fait dans d'autres pays, et non pas les dénigrer. Et deux, j'estime que je fais partie de ceux qui ont eu la chance, des Hauts-Alpins, qui ont grandi dans ce beau territoire, et qui ont la chance de pouvoir revenir travailler et s'y épanouir. Ce qui n'est pas le cas d'énormément de nos concitoyens, de nos jeunes Hauts-Alpins. Et donc, on en arrive à des situations, vous l'avez dit, pour ceux qui sont obligés de rester, qui ne trouvent pas ni du boulot ici, ni du boulot ailleurs, dans des situations de pauvreté de jeunesse, qui sont pour moi beaucoup de pistes à travailler, à améliorer, et je le répète, ensemble. Vous savez, un député, il vote les lois à l'Assemblée nationale. C'était important de le rappeler, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans ce pays, à force de faire de la politique politicienne, on n'explique plus les choses. Un député, il vote, il a deux actions. Il contrôle l'action du gouvernement et il vote les lois à l'Assemblée nationale. Il les fait. J'estime qu'un bon député, il doit prendre en compte les spécificités de son territoire pour favoriser ou pas trop le défavoriser au moment du vote des lois.
Ça veut
et
dire
un vrai
quoi,
député,
vous...
Cyril, oui. Excusez-moi, je termine juste là-dessus, parce que c'est très important. Et un vrai député, il doit être aussi à l'hémicycle, mais il doit être aussi sur le terrain. Et ça, c'est pas marqué sur la fiche de poste, mais j'estime qu'il doit être sur le terrain, il doit travailler avec tout le monde, travailler avec les élus, pour faire avancer les dossiers qui sont nécessaires et qui sont bons pour son territoire.
Ça veut dire quoi? Que vous ne voterez pas forcément comme votre groupe l'imposera?
Oui, vous avez exactement compris. J'estime que la politique politicienne a tué l'image de l'engagement politique, qui est un engagement pourtant si nécessaire à notre démocratie. Donc oui, je le dis très franchement, quand il y aura des choses que j'estimerai bonnes pour le territoire, je les voterai, en mon âme et conscience, bien évidemment. Et quand il y en aura d'autres qui, j'estime, ne prendront pas assez en compte les spécificités de notre territoire ou que nous ne sommes pas assez entendus, nous, les territoires ruraux, eh bien, je ne les voterai pas.
Alors, justement, j'aimerais rebondir sur ce que vous pointiez il y a quelques instants sur cette fameuse manne intellectuelle ou manne manuelle qui part aujourd'hui des Hautes-Alpes. 25% de la population de la première circonscription des Hautes-Alpes a moins de 23 ans. Mmh. Il n'y a que 6% d'étudiants dans cette première circonscription, alors que c'est l'un des pôles de formation du département avec Gap. Les jeunes partent, ils créent de la richesse intellectuelle, économique, manuelle. Ailleurs, comment on les garde sur le territoire ?
Par plusieurs canaux, déjà la formation, on en parlait, au sens large du terme, ce qui implique et ce qui sous-tend un certain nombre de sujets. Parce que si vous voulez bien former, si vous voulez créer plus, je dirais, de canaux de formation ici dans les Hautes-Alpes, bien évidemment, il faut qu'on soit au top au niveau du numérique, ce qui n'est pas encore le cas, ce qui est en train d'être développé. Mais si on compare, parce que c'est quand même intéressant de se comparer à nos voisins, on constate une inégalité flagrante par rapport aux métropoles qui, elles, non seulement sont fibrées depuis belle lurette, passez-moi l'expression, mais en plus de ça, n'ont pas payé. Alors qu'ici, ça prend du temps, et puis on doit payer, ça coûte très cher. Donc déjà, essayons de faire en sorte de garder nos jeunes. Pour garder nos jeunes, il faut créer toutes les conditions à ce qu'ils puissent étudier ici, et ensuite travailler ici. Et bien évidemment, je le répète, ça va passer par une meilleure accessibilité du département, de meilleur développement du numérique, faire en sorte que le département soit plus attractif économiquement, tout en préservant ce qui fait les spécificités, la beauté de nos territoires. Et là, je vais parler aussi d'environnement, parce que on dit toujours que la droite ne parle pas d'environnement. Bien, moi, je pense que c'est vraiment une mauvaise chose d'opposer constamment développement économique et transition écologique. Nous sommes un département on le fait très bien, on fait les deux choses, on allie les deux choses, et c'est très important de le dire.
Alors, autre chiffre, 4 Hauts-Alpins sur 10 a un emploi, c'est une bonne chose, vous allez me dire, mais 3 Hauts-Alpins sur 10 sont des retraités. 50% de la population a plus de 46 ans, ce qui veut dire que la moitié de la population, dans quelques années, va certainement déséquilibrer la balance du territoire si elle reste dans les Hautes-Alpes.
Eh bien, certains vous diront que ce n'est pas... ne le verront pas d'un bon œil. Au contraire, moi, je le vois comme une opportunité à bien des égards.
On parle souvent de la silver economy, l'économie des seniors.
Oui.
C'est un gros mot ou c'est quelque chose qu'il faut amplifier?
Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas attendre. Il faut s'y adapter, il faut préparer le terrain, parce qu'avant de parler d'économie, on parle quand même de bien-être. Vous l'avez dit, nous avons une population d'aînés qui est en constante progression dans ce département, et dans notre circonscription notamment. Eh bien, plutôt que d'attendre et de se confronter à des problématiques qui vont être graves si on ne les prend pas avant, il faut le préparer. Et ça se prépare aussi à l'Assemblée nationale, puisque vous savez que dans le grand plan vieillesse, il y a encore un certain nombre de choses à améliorer. Moi, je suis pour qu'il y ait une transition, qu'on puisse garder le maximum de temps nos aînés chez eux. Mais pour ça, il faut plus d'adaptation des domiciles, il faut plus de moyens médicaux sur place. Aujourd'hui, et d'ailleurs, ça vaut pour tout le monde, mais ça impacte quand même beaucoup plus nos aînés. Quand vous cherchez un médecin, pas généraliste, parce que j'ai lu un rapport comme quoi on était des mieux lotis. Bon, ça encore, ça se discute. Mais sur la médecine spécialisée, aujourd'hui, vous cherchez un dermato, vous cherchez un dentiste. Si tant est que vous en ayez un, si vous en avez pas à Gap, vous n'en trouvez plus, ils ne prennent plus. Vous êtes obligé d'aller à Marseille, à Grenoble, à Aix-en-Provence pour vous faire soigner.
Et on fait quoi pour attirer ces spécialistes ou voire même ces généralistes? On fait quoi? Une aide foncière, ça a été souvent le cas, une aide économique?
Ça ne
fonctionne pas forcément?
Je pense qu'il faut légiférer. Il faut...
Obligé?
Oui, Oui, très bien, tout à fait. Alors, bien évidemment, il ne faut pas prendre ce mot comme un gros mot. Il y a deux choses. Supprimer le numerus clausus, ça a été fait. Sauf qu'en réalité, dans les faits, ce n'est pas appliqué.
Donc, ça ne peut pas être appliqué tout de suite.
Oui.
Ça met 10 ans.
Mais justement, je suis conscient de ce que ça demande du temps de l'application, mais il faut aller plus vite. Il faut trouver des moyens pour aller plus vite, parce que dans 10 ans, on aura presque doublé la population d'aînés et de personnes qui vont avoir besoin de soins médicaux. Et légiférer. Vous savez, je prends un exemple, bien sûr que c'est des choses sur lesquelles il faut travailler en profondeur. D'ailleurs, d'ici peu, il y aura un programme beaucoup plus détaillé sur les propositions que nous avons travaillées ces 6 derniers mois, de 6 pages, qui arrivera dans les 32 000 boîtes aux lettres de la circonscription. Mais pour revenir à ça, quand vous avez des notaires, par exemple, je prends juste l'exemple, il y a un certain nombre de numérus, pour le coup, mais qui est débloqué en fonction des territoires. Et donc, à chaque fois que quelqu'un veut une place, il est attribué à un territoire, excusez-moi. Mais c'est obligatoire. Sinon, il ne prend pas la place. Mais on devrait faire comme ça. Aujourd'hui, on sait très bien que les médecins, au sens large du terme, et encore une fois, je ne pointe du doigt personne, mais vont souvent plus dans les grandes villes, notamment au début de leur carrière. Pourquoi ? Parce qu'ils y ont travaillé avant d'avoir leur diplôme. Et donc, forcément, ils s'y installent. C'est pour ça qu'il faut prendre la chose à la base et que dès les années d'études, souvent très tôt, en donnant un peu plus d'opportunités, en mettant en place des moyens financiers, des leviers financiers, il faut les attirer vers les territoires ruraux.
Par exemple, je prends l'exemple du côté d'Espinas, il y a eu une maison médicale qui a été mise en place, sauf qu'on ne trouve pas forcément les médecins qui veulent s'y implanter.
Tout à fait. Ouais, ce sont des bons exemples, puisque les maisons médicales sont souvent des projets, et c'est très bien, portés par les collectivités, par les mairies, donc il y a un moyen d'action directe. Mais par contre, pour les remplir, et c'est là où je reviens à ma formulation, il faut légiférer.
Alors, la population de votre circonscription est majoritairement composée de ménages modestes, médians. C'est la classe moyenne plus, comme on l'appelle. Ça fait pratiquement la moitié de la population. Qu'est-ce que vous voulez leur défendre au sein de l'Assemblée nationale si vous êtes élu en juin?
C'est exactement ce que je vous disais en préambule. Je pense que dans les territoires ruraux, malheureusement, trop souvent, on subit les décisions. Et je ne veux pas caricaturer, mais on subit les décisions qui sont prises à l'Assemblée, donc décisions parisiennes. Plutôt que de faire redescendre la décision, je pense que le député doit faire remonter les problématiques. On ne le dit pas assez. On pense que, et à juste titre, un député des Hautes-Alpes, c'est avant tout le député de la nation. Oui, mais c'est quand même le député des Hautes-Alpes. Il est élu par des Hauts-Alpins qui ont des spécificités, vous l'avez dit. Effectivement, comparé à d'autres départements, nous sommes un département qui n'est pas qui est relativement pauvre à bien des égards. Et bien justement, nous avons des spécificités, il faut les faire entendre. Il y a plein de sujets là-dessus.
Et les ménages modestes, alors on leur promet quoi? Ils ne sont pas forcément pauvres, ils ne sont pas forcément aisés.
Vous savez que moi je crois à une droite et à un centre populaire. Celle qui défend les classes moyennes qui sont constamment prises en étau, quoi que l'on fasse dans ce pays. C'est-à-dire que vous travaillez assez pour payer des impôts, mais ne pas avoir droit à un certain nombre de prestations sociales, et vous êtes constamment pris en étau. Donc vous savez même plus quoi faire. Eh bien, je pense que nous devons être la voix de cette classe moyenne, de cette classe populaire, et au-delà de tout ça, nous sommes un département trop petit pour prendre en considération des couleurs partisanes. Si demain je suis élu député, je ne vais pas m'atteler juste à ceux qui ont voté pour moi, une certaine partie du centre et de la droite. Je serai le député de tout le monde. Et quand vous travaillez, parce que moi j'ai un travail, jusqu'à présent, bien sûr que si je suis député, je quitterai le travail et je me consacrerai à 200% à mon travail. Mais quand vous travaillez, quand vous êtes dans le tissu associatif, vous regardez pas la couleur politique des gens. Vous travaillez tous ensemble pour faire en sorte de faire grandir le sujet, le combat. Et là, nous avons un combat pour notre territoire.
Il veut être le député de tout le monde, c'est Kevin Parra. Merci d'avoir été avec nous dans nos studios aujourd'hui sur Alpe 1. Je rappelle donc que vous êtes le candidat Les Républicains sur la première circonscription des Hautes-Alpes.